Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Maria France, c'est l'actualité du pape François. Alors vous avez noté, il y a un changement sur le plan des horaires par rapport à la programmation précédente avant la pause estivale. L'actualité du pape François vous était proposée le jeudi également, mais à 17h. Dorénavant, actualité du pape François, c'est à 14h le jeudi également. Tous les jeudis, nous nous retrouverons donc à 14h pour faire ce point sur l'actualité du Saint-Père. Et aujourd'hui, dans les principaux titres, les principales choses dont nous allons parler, la première, c'est une lettre du cardinal Robert Sara sur Revenons avec joie à l'Eucharistie. Nous parlerons bien sûr quelques extraits également des paroles du pape François lors de la prière de l'Angélus dimanche dernier. Dans cette actualité, nous allons également revenir sur les différentes célébrations, quelques extraits donc sur bien sûr la Croix Glorieuse, là également Notre-Dame, la fête de Notre-Dame des Douleurs, un message du Saint-Père également sur la paix, nous dit le Saint-Père, ça s'apprend. Également quelques nouvelles de la prochaine encyclique du pape François, prochaine encyclique qui sera publiée en octobre de cette année. Également un rendez-vous du Saint-Père à l'ONU. Et enfin, bien sûr, nous terminerons sur la catéchèse du pape François, catéchèse du mercredi. Voilà, donc nous allons commencer avec cette lettre du cardinal Robert Sara. Revenons avec joie à l'Eucharistie. Oui, le cardinal Robert Sara, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a fait donc une mise au point dans cette lettre adressé au président des conférences épiscopales sur la célébration de la liturgie pendant et après la pandémie de Covid-19. Alors, quelques larges extraits de cette lettre. Alors, cette lettre, elle est datée du 15 août 2020. Elle a été approuvée par le pape François le 3 septembre dernier. Et Radio Vatican en a publié donc le 12 septembre de larges extraits que voici. Alors, premier thème, la vie communautaire théologique. Donc je cite le cardinal Robert Sara. La pandémie due au nouveau coronavirus a provoqué des bouleversements non seulement dans les dynamiques sociales, familiales, mais aussi dans la vie de la communauté chrétienne, y compris dans la dimension liturgique. La dimension communautaire a une signification théologique. Dieu est la relation des personnes dans la Sainte Trinité. Il se met en relation avec l'homme et la femme et les appelle à son tour à une relation avec lui. Alors tandis que les païens construisaient des temples dédiés à la seule divinité, auxquels les gens d'ailleurs n'avaient pas accès, les chrétiens, dès qu'ils jouirent de la liberté de culte, construisirent immédiatement des lieux qui seraient Domus Dei et Domus Ecclesiae, où les fidèles pourraient se reconnaître comme communauté de Dieu. Oui, la maison du Seigneur, nous dit le cardinal Robert Sara, la maison du Seigneur suppose la présence de la famille des enfants de Dieu. Alors la communauté chrétienne n'a jamais recherché l'isolement et n'a jamais fait de l'Église une ville à huis clos, nous dit le cardinal. Formés dans la valeur de la vie communautaire et dans la recherche du bien commun, les chrétiens ont toujours cherché l'insertion dans la société. Et même dans l'urgence pandémique, un grand sens des responsabilités a émergé, à l'écoute et en collaboration avec les autorités civiles et avec les experts, les évêques et leurs conférences territoriales ont été promptes à prendre des décisions difficiles et douloureuses jusqu'à la suspension prolongée de la participation des fidèles à la célébration de l'Eucharistie. Cependant, nous dit le cardinal Robert Sara, dès que les circonstances le permettent, il est nécessaire et urgent de revenir à la normalité de la vie chrétienne, qui a le bâtiment de l'Église pour foyer et la célébration de la liturgie, en particulier l'Eucharistie, comme le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où émane toute sa force. Alors conscient du fait que Dieu n'abandonne jamais l'humanité qu'il a créée et que même les épreuves les plus dures peuvent porter des fruits de grâce, nous avons accepté l'éloignement de l'autel du Seigneur comme un temps de jeûne eucharistique, utile pour nous en faire redécouvrir l'importance vitale, la beauté et la préciosité incommensurables. Mais nous dit le cardinal, le plus tôt possible, avec un désir accru de rencontrer le Seigneur, de demeurer avec lui, de le recevoir pour l'amener à nos frères, avec le témoignage d'une vie pleine de foi, d'amour et d'espérance. Ajoute encore le cardinal Robert Sarah, bien que les médias rendent un service apprécié aux malades et à ceux qui ne peuvent pas aller à l'église, et ont fourni un grand service dans la transmission de la Sainte Messe, au moment où il n'y avait aucune possibilité de célébrer d'une manière communautaire, aucune transmission équivaut à une participation personnelle ou peut la remplacer. En effet, nous dit le cardinal, ces transmissions, à elles seules, risquent de nous éloigner d'une rencontre personnelle et intime avec le Dieu incarné, qui s'est donné à nous non pas de manière virtuelle, mais réellement, en disant « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Alors ce contact physique, dit le cardinal Robert Sarah, ce contact physique avec le Seigneur est vital, indispensable, irremplaçable. Une fois que les mesures concrètement réalisables ont été identifiées et adoptées pour minimiser la contagion du virus, il faut que tous reprennent leur place dans l'assemblée des frères découragés, effrayés et depuis trop longtemps absents ou distraits. Cardinal Robert Sarah qui suggère donc quelques lignes d'action pour promouvoir un retour rapide et sûr à la célébration de l'Eucharistie. Une attention particulière aux normes d'hygiène et de sécurité ne peut pas conduire à la stérilisation des gestes et des rites. Le cardinal recommande l'action prudente mais ferme des évêques pour que la participation des fidèles à la célébration de l'Eucharistie ne soit pas déclassifiée par les autorités civiles comme un rassemblement et ne soit pas considérée comme comparable ou même subordonnée à des formes d'agrégation récréative. Les normes liturgiques ne sont pas une matière sur laquelle les autorités civiles peuvent légiférer, rappelle le cardinal. Seules peuvent le faire les autorités ecclésiastiques compétentes. Oui, le cardinal Sarah invite à faciliter la participation des fidèles aux célébrations, mais sans expérience rituelle improvisée et dans le plein respect des normes contenues dans les livres liturgiques qui régissent leur déroulement et en reconnaissant aux fidèles le droit de recevoir le corps du Christ et d'adorer le Seigneur présent dans l'Eucharistie de la manière prévue, sans limitation, allant même au-delà de ce qui était prévu par les règles d'hygiène édictées par les autorités publiques ou par les évêques. Oui, l'obéissance, nous dit le cardinal Robert Sarah, est un principe sûr pour ne pas commettre d'erreur. Obéissance aux normes de l'Église, obéissance aux évêques. Et en période de difficulté, et on pense par exemple aux guerres, aux pandémies, les évêques et les conférences épiscopales peuvent donner des règlements provisoires auxquels il faut se conformer. L'obéissance sauvegarde le trésor confié à l'Église. Ces mesures dictées par les évêques et les conférences épiscopales expirent lorsque la situation revient à la normalité. Oui, l'Église protège la personne humaine dans sa totalité et à la préoccupation nécessaire pour la santé publique, elle unit l'annonce et l'accompagnement des âmes vers le salut éternel des âmes. Voilà, après cette belle lettre du cardinal Robert Sarah, nous allons maintenant parler donc citer quelques extraits des passages du pape François lors de l'Angélus, donc dimanche dernier. Je cite le Saint-Père, pense à la fin au pardon de Dieu et cesse de haïr, chasse la rancœur, cette mouche agaçante qui va et vient. Oui, le pape François qui a exhorté pendant cette prière de l'Angélus au pardon en famille, entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, dans la société, dans l'Église et en politique. C'était donc avant la prière de l'Angélus dominical, ce 13 septembre 2020, depuis la fenêtre du bureau apostolique du Vatican qui donne place Saint-Pierre. Alors le pape François, bien sûr, a fait référence à cette parabole que nous lisons dans l'Évangile, que c'était l'Évangile, bien sûr, de dimanche dernier, celle du roi miséricordieux, dans l'Évangile de Matthieu. Et nous trouvons à deux reprises cette supplication « Prends patience avec moi et je te le rendrai ». Alors la première fois, elle est prononcée par le serviteur qui doit à son maître 10 000 talents, une somme énorme. Aujourd'hui, ce serait des millions et des millions d'euros, nous dit le Saint-Père. La seconde fois, elle est répétée par un autre serviteur du même maître. Il est également endetté, non pas envers son maître, mais envers le serviteur qui doit cette énorme dette. Et sa dette est très faible, peut-être comme une semaine de salaire. Le cœur de la parabole, c'est l'indulgence que le maître montre au serviteur le plus endetté. Tout le monde connaît ce récit, hein. Aussitôt après, le serviteur, ce même serviteur, se montre impitoyable envers son compagnon, qui lui doit une somme modique. Il ne l'écoute pas, il l'insulte et le fait jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette, cette petite dette. Alors le maître vient à l'apprendre et, indigné, il rappelle le méchant serviteur et il le fait condamner. « Je t'ai tant remis et tu es incapable de remettre si peu. » Alors, dans la parabole, on trouve deux attitudes différentes, nous dit le pape François, celle de Dieu, représentée par le roi, qui pardonne beaucoup, parce que Dieu pardonne toujours, et celle de l'homme. Alors, dans l'attitude divine, la justice est imprégnée de miséricorde, tandis que l'attitude humaine se limite à la justice. Alors Jésus nous exhorte à nous ouvrir courageusement à la puissance du pardon, car on le sait, dans la vie, tout ne se résout pas par la justice. On a besoin de cet amour miséricordieux qui est aussi la base de la réponse du Seigneur à la question de Pierre qui précède la parabole. Cette question de Pierre qui dit « Seigneur, si mon frère commet des péchés contre moi, combien de fois devrais-je pardonner ?» Et on connaît la réponse de Jésus « Je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 77 fois 7. » Et dans le langage symbolique de la Bible, cela signifie que nous sommes appelés à toujours pardonner. Oui, rappelle le pape François combien de souffrances, combien de lacérations, combien de guerres pourraient être évitées si le pardon et la miséricorde étaient notre style de vie, même en famille. Combien de familles brisées qui ne savent pas se pardonner, combien de frères et de sœurs qui ont cette rancœur en eux. Il est nécessaire de mettre en œuvre l'amour miséricordieux dans toutes les relations humaines. Alors le Saint-Père qui ajoute qu'il a été frappé en célébrant la messe, juste avant, par une phrase de la première lecture, c'était dans le livre du Siracide, et la phrase dit ceci « Souviens-toi de la faim et cesse de haïr ». Belle phrase, nous dit le Saint-Père. « Pense à la faim, pense que tu seras dans ton cercueil, et tu emporteras la haine. Pense à la faim, cesse de haïr, arrête la rancœur. » Oui, ce n'est pas facile de pardonner, ajoute le Saint-Père, car dans les moments tranquilles, on se dit « Oui, celui-là m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais j'en ai fait voir beaucoup moi aussi. Mieux vaut pardonner pour être pardonné. Et ensuite, la rancœur revient comme une mouche d'été agaçante qui va et qui vient et qui revient. Oui, le pardon n'est pas une question d'un instant, c'est une chose continue contre cette rancœur, cette haine qui revient. Oui, la parabole, conclut le Saint-Père, cette parabole nous aide à saisir pleinement le sens de cette phrase que nous récitons dans la prière du Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Oui, ces paroles qui contiennent une vérité décisive. Nous ne pouvons pas prétendre au pardon de Dieu pour nous si, à notre tour, nous n'accordons pas le pardon à notre prochain. Actualité du pape François sur Radio Maria France. Nous allons maintenant mentionner deux tweets du Saint-Père. Le premier, je cite, « La révélation de l'amour de Dieu pour nous semble une folie. Chaque fois que nous regardons le crucifix, nous trouvons cet amour. Oui, le crucifix est le grand livre de l'amour de Dieu. » Voilà donc le tweet du pape François qui a été publié ce 14 septembre, fête de la croix glorieuse. En célébrant une messe, c'était le 22 avril dernier à Sainte-Marthe, le pape avait affirmé que le crucifix est vraiment le grand livre de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un objet à mettre ici ou là. Le Saint-Père qui avait invité à regarder le crucifix en silence, regarder les plaies, regarder le cœur de Jésus, regarder l'ensemble, le Christ crucifié, le Fils de Dieu, anéanti, humilié, par amour. Il y a là toute la science, tout l'amour de Dieu, toute la sagesse chrétienne. Et lors d'une audience générale, c'était le 28 septembre 2016, le pape François avait encouragé, je le cite, « à celui qui est cloué sur un lit d'hôpital à celui qui vit enfermé dans une prison, à ceux qui sont piégés par les guerres, je dis, regardez le crucifix. Dieu est avec vous. Il reste avec vous sur la croix et il s'offre à tous comme sauveur, à nous tous. À vous qui souffrez tant, je dis, Jésus est crucifié pour vous, pour nous, pour tous. Voilà pour ce premier tweet et second tweet du pape François. C'était bien sûr en l'occasion de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Je cite le Saint-Père à nouveau, la Vierge affligée qui, le cœur transpercé, a pleuré la mort de Jésus, compatit maintenant à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Voilà ce tweet du pape François, publié cette fois le 15 septembre pour donc cette fête, la fête de Notre-Dame des Douleurs. Oui, la fête de Notre-Dame des Douleurs avait été instituée par le pape Pie VII en souvenir des souffrances infligées par Napoléon Ier à l'Église. Même si la dévotion populaire était née bien auparavant, grâce en particulier à l'apostolat des servites de Marie et des passionnistes. Alors, dans un entretien qu'il a donné à Radio Vatican, c'était en 2004, le théologien spécialiste en mariologie, Stefano De Fiores, expliquait « Le peuple s'identifie à Marie et trouve en elle l'expression de sa douleur, une douleur qui est salvifique et non désespérée. Une douleur qui, en dépit de la dureté de cette souffrance, est traversée par la foi en la résurrection, parce que Marie précède les autres dans la foi. Ayant entendu que Jésus devait ressusciter après 3 jours, elle a conservé cette foi dans son cœur et elle l'a maintenue dans toute l'Église. » Alors à propos de l'expression de saint Bernard, qui parle de martyr en esprit de la Vierge Marie, le père de Fiores précisait c'est un martyr parce que la parole de Siméon à Marie est très claire. Jésus est un signe de contradiction. Il y aura une opposition contre lui. Et toi-même, dit-il à Marie, tu auras l'âme transpercée par une épée. En d'autres termes, Marie est du côté de Jésus, souffre avec lui, et donc, sans aucun doute, Marie a participé en esprit avec un martyr de type spirituel aux souffrances de Jésus, qui a eu, par la crucifixion, un martyr non seulement spirituel, mais physique. Mais il faut dire une chose. La vie de Marie n'a pas toujours été un martyr, parce qu'elle a eu aussi des moments de joie et des moments de contemplation. La vocation laïque est avant tout la charité dans la famille et la charité sociale ou politique. Voilà ce qu'a écrit le pape François dans une préface. Je le cite à nouveau, « C'est vivre au milieu du monde et de la société pour en évangéliser ses diverses instances, pour faire grandir la paix, la coexistence, la justice, les droits humains, la miséricorde. » Le pape a en effet donc signé une préface de l'ouvrage qui s'intitule « dont le titre est « Pour un savoir de la paix », publié par la librairie éditrice du Vatican sous la direction de Gilfredo Marengo, vice-doyen et professeur d'anthropologie théologique à l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Celui qui entend devenir expert des sciences de la paix a besoin d'apprendre à être attentif aux signes des temps, estime le pape. Le goût de la recherche scientifique et de l'étude doit être accompagné d'un cœur capable de partager les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes d'aujourd'hui, pour savoir faire un vrai discernement évangélique. Évoquant le cycle d'études en sciences de la paix institué à l'Université pontificale du Latran, le Saint-Père appelle à former vraiment de précieux ouvriers de paix, prêts à se mettre en jeu dans les milieux les plus divers de vie de nos sociétés. Une nouvelle encyclique du pape François, l'encyclique « Tous frères » sur la fraternité et l'amitié sociale. Elle sera donc publiée, cette encyclique, le dimanche 4 octobre prochain, en la fête de Saint François d'Assise. à midi, heure de Rome. Voilà ce qu'a indiqué le Saint-Siège. Alors le pape François, d'ailleurs, se rendra à Assise, dans la province de Pérouse, en Ombrie, le 3 octobre 2020, pour donner un message de fraternité au monde. Et c'est là qu'il signera donc sa troisième encyclique dédiée à ce thème. À 15h d'ailleurs, le pape, ce même jour, célébrera la messe auprès de la tombe de saint François, puis il signera cette encyclique donc intitulée « Fratelli tutti ». Alors cette quatrième visite du pape argentin à Assise sera privée en raison des restrictions sanitaires. Alors pour le custode du couvent d'Assise, le père Mauro Gambetti, la venue du pape pour signer l'encyclique souligne l'importance et la nécessité de la fraternité, surtout en cette période difficile. Le message du pape trouve une inspiration et un soutien dans la personne du poverello, indique la même source. Oui, dans la spiritualité de saint François, en effet, le Dieu, Père unique, est la source de l'unique fraternité entre tous les êtres humains, et même de la fraternité cosmique, qui unit d'une certaine façon toutes les créatures. Voilà, Fratelli tutti sera donc la troisième encyclique du pape François, après Lumen Fidei en 2013, sur la foi, écrite avec Benoît XVI, et Laudato Si en 2015, sur l'écologie humaine intégrale. À la fin de ce mois de septembre, le pape François va s'adresser à l'Assemblée de l'ONU. Voilà ce qu'a indiqué le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Le Saint-Père adressera un message à l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de la semaine de haut niveau, après le 22 septembre. Rappelons que le Saint-Père s'est rendu aux États-Unis à New York, c'était en septembre 2015, et il a rendu une visite de quelques heures au siège de l'ONU à New York, et il a notamment prononcé un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le pape a appelé les gouvernants du monde à concentrer leurs efforts sur la protection de l'environnement et sur la lutte contre l'exclusion. Je le cite, « L'exclusion économique et sociale est une négation totale de la fraternité humaine et une très grave atteinte aux droits humains et à l'environnement. Ces phénomènes constituent la culture du déchet, aujourd'hui si répandue et inconsciemment renforcée. » Voilà ce qu'a déploré le Saint-Père à cette occasion. Voilà, et dans cette actualité du pape François, nous en venons maintenant à la catéchèse du Saint-Père. La catéchèse dont le thème est la contemplation pour sauver la maison commune. Voilà un antidote à l'usage impropre et abusif de la terre et de la création. Oui, le meilleur antidote à l'usage impropre et abusif de la terre et de la création, c'est donc la contemplation. Voilà ce qu'a affirmé le pape François, qui invite à être contemplatif dans l'action. Le pape François qui poursuit donc son cycle de catéchèses sur le thème « Guérir le monde ». C'était donc lors de cette audience générale du mercredi 16 septembre dans la cour Saint-Damas du Vatican. Voici donc quelques passages de cette catéchèse du Saint-Père. Saint-Père qui nous dit que prendre soin de l'autre, c'est une règle d'or de notre condition d'être humain. Et cela apporte en soi la santé et l'espérance. Prendre soin de celui qui est malade, de celui qui en a besoin, de celui qui est laissé de côté, c'est une richesse humaine et également chrétienne. Ce soin, nous devons également l'apporter à notre maison commune, à la terre et à toutes les créatures. Toutes les formes de vie sont liées, et notre santé dépend des écosystèmes que Dieu a créés et dont il nous a chargés de prendre soin. En abuser, en revanche, est un grave péché qui crée des dommages, qui fait mal et qui rend malade. Alors le meilleur antidote, on l'a dit, contre cet usage impropre de notre maison commune, c'est la contemplation. Mais comment cela se fait-il? N'y a-t-il pas un vaccin pour cela? Pour le soin de la maison commune? Pour ne pas la laisser de côté? Quel est l'antidote contre la maladie de ne pas prendre soin de la maison commune? Eh bien, c'est la contemplation, nous dit le pape François. Quand on n'apprend pas à s'arrêter pour admirer et pour apprécier ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout se transforme en objet dont on use et abuse sans scrupule, et même en objet jetable. Toutefois, notre maison commune, la création, n'est pas une simple ressource, rappelle le pape François. Les créatures ont une valeur en elles-mêmes et reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. Cette valeur, ce rayon de lumière divine, doit être découvert, et pour le découvrir, nous avons besoin de rester en silence. Nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin de contempler. Oui, la contemplation aussi guérit l'âme. Sans contemplation, ajoute le pape François, il est facile de tomber dans un anthropocentrisme déséquilibré et orgueilleux, le moi au centre de tout, qui surdimensionne notre rôle d'être humain en nous posant en dominateur absolu de toutes les autres créatures. Une interprétation déformée des textes bibliques sur la création a contribué à cette vision erronée, qui conduit à exploiter la terre jusqu'à l'étouffer. Exploiter la création, nous dit la Saint-Père, voilà quel est le péché. Certes, nous pouvons et nous devons travailler la terre pour vivre et nous développer, mais le travail n'est pas synonyme d'exploitation, et il est toujours accompagné par les soins. Labourer et protéger, travailler et prendre soin, telle est notre mission. Nous ne pouvons pas prétendre continuer à nous développer sur le plan matériel sans prendre soin de la maison commune qui nous accueille. Nos frères plus pauvres et notre mère la terre gémissent à cause des dommages et de l'injustice que nous avons provoqués et ils réclament une nouvelle voie. Ils réclament de nous une conversion, un changement de cap. Il est donc important, nous dit le Saint-Père, de retrouver cette dimension contemplative, c'est-à-dire de regarder la terre, la création, comme un don, non pas comme quelque chose à exploiter pour le profit. Oui, le cœur du problème est là, nous dit le Saint-Père. Contempler, c'est aller au-delà de l'utilité d'une chose. Contempler ce qui est beau ne veut pas dire l'exploiter. La contemplation est gratuité. La contemplation qui nous conduit à une attitude de soin ne consiste pas à regarder la nature de l'extérieur, comme si nous n'y étions pas plongés. Nous sommes à l'intérieur de la nature, nous faisons partie de la nature. Cette contemplation, elle se fait plutôt à partir de l'intérieur, en nous reconnaissant donc comme une partie de cette création, en devenant des protagonistes et non de simples observateurs d'une réalité amorphe qu'il s'agirait seulement d'exploiter. Le Saint-Père qui ajoute « Une chose que nous ne devons pas oublier, celui qui ne sait pas contempler la nature, la création, ne sait pas contempler les personnes dans leur richesse. Et celui qui vit pour exploiter la nature finit par exploiter les personnes et à les traiter comme des esclaves. C'est une loi universelle. Si tu ne sais pas contempler la nature, il te sera très difficile de savoir contempler les gens, la beauté des personnes, ton frère, ta sœur. » Oui, celui qui sait contempler, au contraire, se mettra plus facilement au travail pour changer ce qui cause la dégradation et les dommages à la santé. Il s'engagera à éduquer et à promouvoir de nouvelles habitudes de production et de consommation, à contribuer à un nouveau modèle de croissance économique qui garantisse le respect de la maison commune et le respect des personnes. Oui, le contemplatif en action tend à devenir un gardien de l'environnement. C'est beau, nous dit le Saint-Père. C'est à nous, chacun, à chacun d'entre nous, d'être des gardiens de l'environnement, de la pureté de l'environnement. Contempler et prendre soin, voilà deux attitudes qui montrent la voie pour corriger et rééquilibrer notre relation d'être humain avec la création. Très souvent, ajoute le Saint-Père, notre relation avec la création semble être une relation entre ennemis. Détruire la création à mon avantage, exploiter la création à mon avantage. N'oublions pas que cela se paie cher. Et n'oublions pas ce dicton espagnol, rappelle le Saint-Père, « Dieu pardonne toujours, nous pardonnons parfois, la nature ne pardonne jamais. » Alors pensons à nos enfants et à nos petits-enfants. Que leur laissons-nous si nous exploitons la création? Que va-t-on leur laisser? Sauvegardons ce chemin et ainsi nous deviendrons des gardiens de la maison commune, des gardiens de la vie et de l'espérance. Mais il ne faut pas déléguer à certaines personnes ce qui est la tâche de chaque être humain. Chacun de nous peut et doit devenir un gardien de la maison commune, capable de louer Dieu pour ses créatures, de contempler les créatures et de les protéger. Voilà, chers amis auditeurs, c'est sur cette donc, très belle parole de cette catéchèse du pape François sur la contemplation et la sauvegarde de la maison commune que s'achève donc cette actualité du pape François. Et je vous retrouve donc jeudi prochain, donc avec ce nouvel horaire pour cette programmation 2020-2021, donc 14h, jeudi prochain 14h, au revoir à tous.